Place à notre question du jour. L'Agence nationale de sécurité du médicament a donné son feu vert à une expérimentation du cannabis thérapeutique en France avant la fin de l'année 2019. Cette décision a été prise après avoir consulté l'avis d'un comité d'experts qui a souligné la pertinence du cannabis thérapeutique dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance des traitements existants. Je cite, quelles sont ces situations cliniques? Cette plante utilisée comme drogue ou encore fibre sera-t-elle bientôt utilisée comme médicament? Bonjour Bertrand Lebeau-Lebovici.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin, addictologue à Saint-Antoine à Paris et à Montfermeil. Vous intéressez à cette question du cannabis thérapeutique depuis plusieurs années. Décembre dernier, je le disais, donc l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, a mis en place un comité d'experts qui devait rendre un avis sur l'usage du cannabis à visée thérapeutique. Ce comité a donc ouvert la voie pour une expérimentation. D'abord, que vous inspire cette autorisation, et puis vous nous expliquerez le contenu précis de cet avis.
Écoutez, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait dit il y a quelques mois que la France avait pris un retard. Retard, c'est le mot qu'elle a utilisé pour expliquer la situation française en matière de cannabis. Donc, il est assez normal qu'elle ait créé un groupe d'experts et que ces experts rendent un premier avis. Alors, sur le caractère pertinent du cannabis thérapeutique, ça pourrait presque faire rire. Enfin, la majorité des pays européens sont déjà engagés dans cette voie. À l'international, il y a des pays qui sont très avancés, comme Israël, par exemple, aux États-Unis. Il y a aussi des travaux extrêmement importants qui sont menés. Et peut-être que la première chose qu'il faut dire, c'est que il y a une base scientifique très solide à toute cette affaire. Hein. Certains pourraient penser que, je sais pas, c'est des remèdes de l'herboristerie du temps passé, pas du tout. On a appris beaucoup de choses sur le mode d'action du cannabis, et donc c'est sur cette base que tous ces travaux sont menés.
Et il y aura donc bientôt une expérimentation, a priori avant la fin de l'année 2019. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement?
D'abord, ne pensez pas que je dis ça par pure méchanceté, mais enfin le président de ce CSST, Nicolas Autier, qui par ailleurs est président de la commission des stupéfiants, donc c'est un homme considérable, a dit « on peut imaginer des centres comme cela a été fait avec l'accès à la méthadone pour les patients héroïnomanes ». Ça fait un peu sourire parce que même si c'est dans le cadre de l'expérimentation, qu'on utilise des cadres de prescription et de délivrance qui sont ceux d'un opiacé, extrêmement délicat d'utilisation. Hein. On peut mourir à 1 mg kilo avec de la méthadone. Pour le cannabis, c'est à peu près comme si on décidait d'expérimenter les lance-pierres et qu'on faisait ça dans un centre qui est destiné à des essais nucléaires et à la bombache. Mais enfin, peu importe, cette expérimentation aura lieu. Il y a une liste d'indications. La seule chose que j'espère, c'est que cette liste d'indications reste ouverte, qu'elle n'est pas fermée et qu'elle pourra évoluer avec le temps.
Pour le moment, Bertrand Lebeau, les patients français ne peuvent pas accéder aux cannabinoïdes. Hein. En France, il y a effectivement un médicament cannabinoïde qui est le Sativex, mais qui en réalité n'est pas commercialisé. Dans l'hypothèse où la France autoriserait effectivement ce cannabis thérapeutique, il y a beaucoup de questions qui se posent. Où, par qui le cannabis devrait être produit? Est-ce qu'il faut produire en France ou l'importer? Quel circuit de distribution? Quel mode de délivrance? En gros, vous préconisez quoi, vous, qui vous intéressez à ce sujet depuis des années?
Alors, d'abord, ce que vous venez de dire, c'est le futur travail du CSST. Hein. C'est-à-dire, le CSST a dit, un, c'est valide, deux, voilà les indications. Maintenant, il s'agit effectivement de définir tout ce que vous avez dit. Si vous voulez, moi, il y a une chose qui me semble extrêmement importante, c'est que sur la base d'une liste de maladies graves, des personnes aient le droit d'autoproduire ou de faire autoproduire, si elles ne sont pas capables de le faire elles-mêmes, du cannabis, afin d'en utiliser les propriétés thérapeutiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, a priori, ce qui risque de se passer, c'est que donc le Sativex que vous évoquiez, hein, le Sativex est un médicament qui a une AMM européenne, dans une indication
autorisation
très précise,
de mise sur le marché.
Voilà, une autorisation de mise sur le marché européenne. Il y a une autorisation française depuis 2014, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord sur le prix entre la France et le laboratoire Almiral, qui est un laboratoire
espagnol,
un laboratoire barcelonais, qui a d'ailleurs un lien avec la compagne actuelle de Manuel Valls, mais je ne rentre pas dans ces détails.
Mais Bertrand Lebeau, la question qui se pose, vous dites, on pourrait dans certains cas, pour certaines pathologies, autoriser des patients à s'auto-produire, à produire leur propre cannabis.
Absolument.
Ça veut dire concrètement que vous l'envisagez sous quelle forme d'utilisation ? Ça serait par quoi ? Par digestion ? Par combustion ? Parce que jusqu'ici, on est plutôt dans des formes, avec des cachets, avec des sprays, c'est plutôt ça.
Ce qu'on peut dire d'emblée, et là-dessus je suis en parfait accord avec le CSST, c'est que la forme fumable n'est pas une forme, disons, acceptable comme forme thérapeutique.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que dans la fumée de cannabis, il y a les mêmes toxiques pour aller vite que dans la fumée du tabac. Et donc, ça présente beaucoup trop d'inconvénients. Donc, ce sont d'autres formes. Par exemple, il y a quelque chose qui pourrait se développer très largement en même temps que la consommation de tabac diminue, c'est la vaporisation. Parce que la vaporisation permet une action très rapide des cannabinoïdes, des principes actifs du cannabis, sans les inconvénients de la combustion. Pourquoi est-ce que la forme fumable est une forme qui est très utilisée ? Parce que c'est la forme la plus rapide. C'est-à-dire que en quelques bouffées, il y a un effet. Je vous donne un exemple. Dans les chimiothérapies anticancéreuses, les gens sont souvent extrêmement nauséeux. Eh bien, il suffit de tirer quelques bouffées de cannabis et ces nausées pratiquement disparaissent. Toutes les autres formes sont des formes plus lentes. Cela étant, le spray buccal, que c'est le cas du Sativex, peut agir assez vite et on peut imaginer un très très grand nombre de galéniques.
Attendez, si les patients produisent leur propre cannabis, ils vont pas le transformer en spray ?
Non. En revanche, ils peuvent parfaitement le vaporiser. Il suffit qu'ils aient un vaporisateur. Il y en a maintenant d'excellente qualité et qui ne coûtent pas si cher. C'est la première chose qu'ils pourraient faire. Mmh. Alors, ceux qui savent faire une teinture mère peuvent le faire, mais il ne s'agit pas d'extraire. Hein. Aujourd'hui, on a des machines qui permettent l'extraction qu'on appelle full spectrum, c'est-à-dire de la totalité des substances qui sont dans le cannabis. Non seulement les cannabinoïdes, mais des substances dont on connaît encore pas très bien la fonction, les terpènes et les flavonoïdes.
Mais ça, ça se fait en laboratoire.
Oui, tout à fait. Non, je pense qu'il y a une voie particulièrement intéressante qu'il faut promouvoir parce que c'est la voie de la réduction des risques en matière de consommation, c'est la vaporisation. Et d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qui pourrait être utilisé avec le tabac. La combustion aujourd'hui, on voit bien que, en tout cas, elle ne peut certainement pas être promue. Et juste pour vous donner un exemple, il y a une entreprise pharmaceutique hollandaise qui s'appelle Bedrocan, qui fabrique, qui met sur le marché, pour le marché pharmaceutique, des sommités fleuries, de la beuh, comme on dirait, que les médecins peuvent prescrire et les pharmacies délivrer. La première chose que dit Bedrocan, c'est « ne fumez pas notre Bedrocan ». Vaporisez-le, mais ne le fumez pas.
Oui, sauf que la majorité la fume.
C'est vrai.
Bertrand Lebeau, il y a un certain nombre de pays étrangers qui ont autorisé le cannabis thérapeutique. Il y a une trentaine de pays, il y a les États-Unis, il y a le Canada, je crois qu'il y a une vingtaine de pays quasiment dans l'Union européenne. Quelles leçons tirer de ces expériences ? Le bilan est-il si bon que ça en termes de santé publique ? Quels sont les modèles qui apparaissent peut-être comme pertinents, qu'on pourrait peut-être imiter ? Bertrand Lebeau.
Alors, je vais prendre un premier exemple qui est le Canada. Le Canada, c'est très intéressant parce que le Canada a légalisé le cannabis thérapeutique en 2001. Donc, ils ont une longue expérience du cannabis thérapeutique. Ils ont, par ailleurs, le 17 octobre dernier, légalisé le cannabis récréatif.
Absolument.
Mais ce qu'on constate, c'est que d'abord, on n'a pas nécessairement besoin des mêmes variétés concernant le cannabis thérapeutique et concernant le cannabis récréatif. Hein, ça n'est pas le même objet. Et une des questions concernant le cannabis thérapeutique, c'est bien celle-là. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais finalement, le cannabis thérapeutique, c'est pas une affaire sérieuse, c'est juste le fauné, c'est juste le cheval de Troie de la légalisation du cannabis récréatif.
Et par ailleurs, on dit aussi que c'est pas forcément utile, qu'il y a beaucoup d'autres alternatives, qu'on n'a pas besoin de ce cannabis thérapeutique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ?
Il y a des situations dans lesquelles cette affirmation ne tient pas une seconde. Alors, il y a un exemple qui est très célèbre, parce qu'il a pris le visage d'un enfant aux États-Unis, c'est qu'il y a des formes rares d'épilepsie de l'enfant, on appelle ça le syndrome de Dravet, la maladie de Lennox-Gastaut, dans lesquelles les traitements antiépileptiques ne fonctionnent pas, et le CBD, le cannabidiol, qui est donc, disons, le deuxième cannabinoïde le plus utilisé avec le THC. Hein. Le THC est psychoactif, le CBD ne l'est pas ou pratiquement pas. Mais le CBD est d'une très grande efficacité sur ces épilepsies sévères de l'enfant. Je vous donne un deuxième exemple. On dispose d'un certain nombre de médicaments qu'on appelle antiémétiques, c'est-à-dire contre les nausées et les vomissements. À peu près aucun n'est aussi efficace que le cannabis, par exemple, dans les nausées induites par les chimiothérapies anticancéreuses. Donc il y a un certain nombre de situations dans lesquelles très clairement, le cannabis et les cannabinoïdes présentent un intérêt premier. J'ai vu que le CSST disait que le cannabis ne pourrait, ou les cannabinoïdes, ne pourraient jamais être prescrits en première intention. Très bien. Mais il y a quelques situations dans lesquelles il mériterait de l'être, en tout cas. Voyons, première intention, ça veut dire que, en gros, on utilise tout ce qu'on a, et quand vraiment on n'y est pas arrivé, on passe au cannabis thérapeutique.
En tout cas, ce qu'on entend, Bertrand Lebeau, je rappelle que vous êtes médecin addictologue, c'est que ça apporte quelque chose de nouveau. Vous parliez du Canada et de ce cannabis récréatif. Ils ont pris la décision avec l'Uruguay d'autoriser ce cannabis récréatif. Alors, c'est des décisions qui sont assez récentes, c'est 2017, je crois. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de ça sur la consommation en termes de santé publique?
Alors, pas au Canada, mais dans les 8 États américains qui ont légalisé, et en particulier dans les deux premiers, c'est-à-dire le Colorado et l'État de Washington, hein, qui se trouve sur la côte Pacifique, on peut commencer à faire un bilan. Pour dire les choses vite, il y a eu effectivement une augmentation de la consommation, elle n'a pas été explosive. Il est probable qu'elle ne l'a pas été parce que le cadre du cannabis thérapeutique qui existait déjà dans ces états était assez tolérant et que les personnes qui voulaient se procurer du cannabis légalement y parvenaient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que on a eu des problèmes avec ce qu'on appelle les edibles, c'est-à-dire le cannabis sous forme solide ou liquide, hein, les space cakes par exemple, parce que les gens qui n'étaient pas du tout habitués à consommer du cannabis, ben ils ont mangé un space cake, il ne s'est rien passé, ils ont attendu 20 minutes, une demi-heure, et puis ils se sont dit, bah, il faut que j'en reprenne un autre. Ils avaient simplement oublié que cette voie-là, la voie digestive, la voie orale, c'est de loin la plus lente. Et par exemple, les Canadiens, avec beaucoup de sagesse, ont décidé d'examiner la situation des edibles dans un an. Un an après le début de la légalisation du cannabis des sommités fleuries.
Donc il faudra vous...
Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont tout simplement retrouvées à l'hôpital. Hein.
Donc il faudra vous réinviter, Bertrand Lebeau, pour faire un nouveau bilan. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes médecin addictologue à Saint-Antoine à Paris et à Montfermeil, et puis co-auteur de Toxique, qui est paru chez Odile Jacob cette année. Merci beaucoup.